Chapitre 38. Aujourd'hui, nous entrons dans les plaines marécageuses et déjà familières de la Campanie. Je salue l'événement d'une nouvelle quinte de toux et je vomis du sang. Beaucoup de sang. Leg Hunt est à mes côtés, plein de sollicitude et de frustration. Après m'avoir soutenu par les épaules durant mon accès spasmodique, après m'avoir aidé à nettoyer le sang sur mes vêtements avec un chiffon trempé dans le ruisseau voisin, il me demande « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?»« Aller cueillir un bouquet de fleurs. » C'est ce que Joseph Severn a fait la dernière fois. Il se détourne furieux, sans se rendre compte que, dans mon délire fiévreux et épuisé, je n'ai fait que lui dire la vérité. La calèche, tirée par un cheval qui semble à bout de force, cahote encore plus bruyamment que précédemment sur la route. Vers le soir, nous dépassons plusieurs carcasses de chevaux au bord du chemin. Nous passons devant une vieille auberge en ruine, puis nous arrivons en vue d'un énorme viaduc ancien, envahi par les mousses et les plantes grimpantes. Un peu plus loin, sur le côté de la route, il y a des poteaux où ont été cloués des espèces de bâtons blancs.
Qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là ?
Me demande Hunt.
Des ossements de brigands.
Il me regarde comme si ma maladie m'avait fait perdre l'esprit. Ce qui est bien possible après tout. Un peu plus tard, nous quittons les marécages de la Campanie. Au-dessus des champs, au loin, se déplace un éclair rouge.
Qu'est-ce que c'est ?
Demande Hunt sur le qui-vive. Je sais qu'il n'a pas perdu espoir de tomber sur quelqu'un qui pourra lui indiquer l'emplacement d'un terminal d'Istrans en train de fonctionner.
Un cardinal. Du gibier.
Il consulte son persoc ou ce qu'il en reste.
Un oiseau ?
Je hoche la tête. Je regarde de nouveau en direction de l'ouest, mais la tache rouge a disparu.
C'est aussi un membre du clergé. Lui dis-je, n'oubliez pas que nous nous rapprochons de Rome.
Il fronce les sourcils en me dévisageant. Pour la centième fois, il essaie de contacter quelqu'un sur les fréquences com de son persoc. La soirée est silencieuse, à l'exception du grincement des roues de la vettura et des trilles lancées au loin par un oiseau. Un cardinal, peut-être. Nous pénétrons dans Rome tandis que les premières lueurs rosâtres du couchant illuminent les nuages. La calèche tressaute allègrement sur les pavés de la porte du Latran. Presque immédiatement après, nous avons devant nous le Colisée envahi par la vigne vierge, habité visiblement par des milliers de pigeons, mais beaucoup plus impressionnant à voir que les holos des ruines, car il n'est pas entouré des faubourgs sordides d'une grande ville d'après-guerre avec ses arcologies gigantesques, mais de cabanes et de champs qui marquent le début de la campagne. J'aperçois Rome proprement dite au loin. Ses toits et ses ruines sont concentrés sur les fameuses sept collines, mais ici c'est le Colisée qui domine le paysage.
« Seigneur, murmure Leg Hunt, qu'est-ce que c'est ?
Des ossements de brigands. »
Je n'ose pas trop parler de peur de déclencher un nouvel accès de toux. Nous poursuivons notre chemin dans les rues désertes de Rome du XIXe siècle de l'ancienne terre, tandis que le crépuscule tombe, épais, autour de nous, et que les pigeons tournent au-dessus des dômes et des toitures de la ville éternelle.
« Où sont-ils tous ?»
murmure Hunt qui paraît effrayé.
« Pas ici, car personne n'a besoin d'eux. »
Ma voix résonne d'une drôle de manière dans les rues sombres et encaissées de la ville. Les pavés de la chaussée sont à peine plus lisses que les pierres du chemin auquel nous venons d'échapper.
« C'est une simstim ?»
me demande Hunt.
« Arrêtez la calèche. »
De lui-même, le cheval fait halte. Je montre à Hunt une grosse pierre dans le caniveau.
« Donnez un coup de pied dedans. Allez-y. »
Il fronce les sourcils mais descend de la calèche. Il va vers la pierre et lui donne un grand coup de pied. Les pigeons s'envolent dans un froissement d'ailes vers les clochers et la vigne vierge, pris de panique en l'entendant jurer bruyamment.
Tout comme le docteur Johnson, vous venez de démontrer la réalité des choses, lui dis-je. Il ne s'agit ni d'une cime ni d'un rêve. Disons, pas plus que le reste de notre existence jusqu'à maintenant.
Pourquoi nous ont-ils fait venir ici ?
Me demande l'adjoint de la présidente en levant les yeux vers le ciel comme si les dieux eux-mêmes étaient en train de l'écouter derrière l'écran pastel des nuages.
Que veulent-ils de nous ?
Ils veulent que je meure.
Je garde cette pensée pour moi, mais sa réalité me frappe comme un coup de poing sur ma poitrine endolorie. Je respire lentement, avec précaution, pour éviter la montée de la toux et des humeurs que je sens bouillonner au fond de ma gorge.
Ils veulent que je meure et ils veulent que Hunt me regarde mourir.
La jument reprend son trot. Elle tourne à droite dans la première ruelle, puis encore à droite dans une avenue remplie d'ombre et d'échos de notre passage. Elle s'arrête en haut d'un immense escalier.
Nous sommes arrivés.
Je fais un effort pour descendre tout seul de la voiture. Mes jambes sont raides, ma poitrine me fait très mal et j'ai le derrière en capilotade. Les premiers vers d'une ode satirique sur les joies du paysage commencent à me hanter. Hunt descend avec autant de raideur que moi et s'avance jusqu'au début de l'escalier à deux branches en croisant les bras et en contemplant les marches comme si elles étaient un piège ou une illusion.
Où sommes-nous au juste, Severne ?
Je lui montre le vaste espace libre qui nous entoure.
C'est la Piazza d'Espagne, lui dis-je.
Cela m'a fait un drôle d'effet tout à coup de m'entendre appeler Severne. Le nom a cessé de m'appartenir au moment où nous avons franchi la porte du Latran. Ou plutôt, mon vrai nom m'est soudain revenu à ce moment-là.
Dans quelques années, ces marches seront connues sous le nom d'escalier d'Espagne.
Tout en disant cela, je commence à descendre les marches dans la courbe de droite. Un vertige soudain me force à m'arrêter. Hunt me saisit vivement le bras.
Vous n'êtes pas en état de marcher. Vous êtes vraiment trop faible.
Je lui montre du doigt un vieil immeuble bigarré dont la façade s'élève comme une muraille de l'autre côté de la piazza.
Venez plus très loin, Hunt. Nous sommes arrivés.
Il se tourne avec une grimace vers le grand bâtiment.
Que sommes-nous venus faire ici ? Qu'est-ce que cet endroit recèle de si spécial ?
Je ne puis m'empêcher de sourire en entendant cette cascade d'allitérations dans la bouche d'un homme si peu enclin à la poésie. Je nous imagine soudain assis de longues nuits durant dans cette bâtisse obscure, moi en train de lui enseigner comment associer cette technique à l'art de la césure masculine ou féminine, ou comment alterner les pieds iambiques avec des pyrrhiques non accentués, ou encore comment s'abandonner sans restriction aux joies des spondées à répétition. Je me mets à tousser, sans pouvoir m'arrêter, jusqu'à ce que le sang éclabousse mes mains et ma chemise. Hunt m'aide de son mieux à descendre l'escalier et à traverser la place où la fontaine de Bernini, en forme de barque, gargouille dans la pénombre. Suivant la direction indiquée par mon doigt, il me conduit dans l'entrée noire qui porte le numéro 26. Je songe confusément à l'avertissement de Dante. La siate ogni speranza, voi ch'entrate, que j'ai l'impression de voir gravé sur le linteau glacé. Seul Weintraub se tenait à l'entrée du sphinx, montrant le poing à tout l'univers, tandis que la nuit tombait et que les tombeaux du temps, en train de s'ouvrir, émettaient une lumière irréelle. Sa fille n'était pas revenue. Le Gritch l'avait emportée. Il avait pris l'enfant nouveau-né dans la paume de sa main d'acier et il avait reculé dans la lumière qui, encore maintenant, repoussait seule comme une terrible tornade issue des profondeurs de la planète. Il s'arc-boutait pour avancer contre ce courant de lumière, mais il avait l'impression de lutter contre un champ de confinement d'une puissance infranchissable. Le soleil d'Hyperion s'était couché. Un vent glacé soufflait, venu des terres désolées du nord, arraché au désert par un front froid qui longeait les montagnes du sud. Sol se tourna pour regarder un tourbillon de poussière vermillon dansant dans le rayon de clarté issu des tombeaux en train de s'ouvrir. Les tombeaux du temps s'ouvrent. Plissant les yeux dans la clarté aveuglante et glacée, Sol regarda, dans la vallée en contrebas, les autres tombeaux qui luisaient comme des feux follets vert clair derrière leurs rideaux de poussière volante. La lumière et les ombres profilées dansaient au fond de la vallée tandis que les nuages, dans le ciel bas, perdaient leurs derniers reflets pastels et que la nuit arrivait en même temps que le vent hurlant. Quelque chose bougeait dans l'entrée du deuxième monument, le tombeau de Jade. Sol descendit en chancelant les marches du sphinx, en se retournant fréquemment pour regarder, au-dessus de lui, l'entrée où le Gritch avait disparu en emportant sa fille. Arrivé au pied des marches, il se mit à courir lourdement entre les pattes du sphinx, dans la direction du tombeau de Jade. Quelque chose se déplaçait lentement dans l'entrée ovale éclairée par la lumière intérieure du monument. Sol était incapable de dire s'il s'agissait d'une silhouette humaine ou non. Si c'était le Gritch, il avait l'intention de l'empoigner à main nue et de le secouer jusqu'à ce qu'il lui rende sa fille ou jusqu'à ce que l'un d'eux soit mort. Mais ce n'était pas le Gritch. Il s'agissait d'une silhouette humaine qui s'avançait en titubant et en s'appuyant au mur du tombeau comme si elle était souffrante ou épuisée. C'était une jeune femme. Il pensa à Rachel, qui était venue ici à l'âge de 26 ans, plus d'un demi-siècle auparavant, pour étudier ce site archéologique sans se douter du destin qui l'attendait sous la forme de la maladie de Merlin. Sol avait espéré jusqu'au bout qu'elle guérirait, qu'elle se remettrait à grandir normalement à partir de l'âge où la maladie serait annulée. Mais si elle ressortait de ce tombeau à l'âge qu'elle avait en entrant dans le sphinx pour la première fois? Son pouls battait si fort à ses oreilles qu'il n'entendait plus le vent rugissant autour de lui. Il fit signe à la silhouette maintenant à moitié cachée par les tourbillons de sable. La jeune femme lui fit signe également. Sol se mit à courir sur une vingtaine de mètres. Il s'arrêta à 30 mètres du tombeau en s'écriant « Rachel ! Rachel !» La jeune femme, dont la silhouette se détachait confusément dans la lumière rugissante, s'éloigna de l'entrée, se toucha le visage à deux mains, cria quelque chose qui se perdit dans le vent et commença à descendre les marches. Sol courut, trébuchant sur les pierres, quittant le sentier, coupant stupidement à travers la vallée, ignorant la douleur lorsque son genou heurta un rocher bas. Il retrouva le sentier, courut encore plus vite vers le pied du tombeau de Jade et la reconnut lorsqu'elle émergea du cône de lumière. Elle perdit l'équilibre au moment où il arrivait au pied des marches. Il eut juste le temps de freiner sa chute et d'accompagner doucement son mouvement jusqu'au sol, tandis que le sable crépitait dans son dos et que les marées du temps tournoyaient autour d'eux comme des maelstroms invisibles et vertigineux, accompagnés d'une forte impression de déjà-vu.
« C'est bien vous !» lui dit-elle en levant la main pour lui toucher le visage. « Je suis revenu. C'est la réalité. »
« Oui, Brown. »
Il essayait de ne pas trembler en écartant les boucles collées à son front moite. Il la tenait fermement, le bras calé sur un genou, en lui soutenant la tête, le dos courbé pour l'abriter au mieux du vent et du sable.
« Tout ira bien, »
dit-il d'une voix douce, les yeux pleins de larmes de déception qu'il refusait de laisser couler.
« Tout va aller très bien maintenant que vous êtes revenu. »
Mayna Gladstone grimpa les marches de la caverne du Conseil de guerre et émergea dans le corridor où de longues bandes de perspex épais permettaient d'apercevoir le mont Olympus et le plateau de Tarsis. Il neigeait tout en bas. Du haut de cet observatoire culminant à près de 12 000 mètres dans le ciel martien, elle pouvait voir les pulsations de lumière et les rideaux d'électricité statique indiquant l'avance de la tempête sur les hautes steppes. Sedeptra Agassi s'avança silencieusement dans le corridor pour se tenir à ses côtés.
« Toujours pas de nouvelles de Legg ou de Severn ?»
demanda Gladstone.
« Aucune, »
répondit la jeune femme noire dont le visage était éclairé à la fois par la pâle lueur du soleil et par les jeux de lumière en contrebas.
« Les autorités du technocentre déclarent qu'il s'agit probablement d'un mauvais fonctionnement du système d'istrance. »
Gladstone lui adressa un sourire sans chaleur.
« Est-ce que vous avez connaissance d'un précédent, Sedeptra ?
Dans le Retz tout entier ?»«
Non, madame. » »«
Le technocentre n'éprouve même plus le besoin d'inventer des explications subtiles. » De toute évidence, il croit pouvoir enlever qui il veut en toute impunité. Il pense que nous sommes incapables de nous passer de lui dans cette crise. Voulez-vous que je vous dise quelque chose, Sadeptra ?
Oui, H-Présidente.
Il a raison.
Elle secoua la tête et se tourna vers le long couloir qui descendait dans la caverne du Conseil de guerre.
Dans moins de 10 minutes, les extros investiront le bosquet de Dieu,
ajouta-t-elle.
Allons rejoindre les autres maintenant. Est-ce que mon rendez-vous avec le conseiller Albedo est prévu juste après le conseil ?
Oui, madame, mais je ne crois pas...
Nous sommes plusieurs à penser qu'il est risqué de les affronter directement de cette manière.
Gladstone s'arrêta pour se retourner. Elle demanda avec un sourire qui, cette fois-ci, était sincère.
Pourquoi donc ? Vous craignez que le centre ne m'escamote comme ses Vernelleg ?
Akasi voulut dire quelque chose, mais elle se ravisa, écartant les bras. Gladstone posa la main sur l'épaule de la jeune femme.
S'ils le font, Sadeptra, ils me rendront personnellement service. Mais je ne crois pas qu'ils en arriveront là. La situation est telle à leurs yeux qu'ils sont persuadés qu'aucun individu ne peut plus rien faire pour modifier le cours des événements. Et il se peut très bien qu'ils aient raison,
ajouta-t-elle en retirant sa main. Sans dire un mot de plus, les deux femmes descendirent dans le cercle de militaires et de politiciens qui les attendaient. « Le moment est proche », déclara la voix authentique de l'arbre-monde, Sek Hardin, tirant le père Paul Duré de sa rêverie. Durant toute l'heure précédente, Duré avait senti son désespoir et ses frustrations se transformer en résignation, puis en quelque chose qui ressemblait au plaisir de n'avoir plus de choix à faire, plus de devoirs à accomplir. Il était demeuré silencieux aux côtés du Templier, contemplant le coucher du soleil sur le bosquet de Dieu et l'apparition, dans la nuit, d'étoiles qui n'en étaient pas. Il se demandait pourquoi Hardin avait choisi, en un moment si crucial, de s'isoler de son peuple, mais le peu qu'il connaissait de la théologie des Templiers lui disait que les adorateurs du Muir devaient préférer être seuls sur leur plateforme sacrée ou au plus profond de leur voûte feuillue pour affronter ce moment de destruction possible. Et les commentaires discrets que la voix authentique faisait de temps à autre dans l'ombre de son capuchon indiquaient à Duré qu'il était en contact avec les autres Templiers par l'intermédiaire d'un implant ou d'un persoc. Il n'y avait pas de manière plus paisible d'attendre la fin du monde, au sommet de l'arbre le plus haut de tout l'univers connu, entouré du bruissement d'un million de feuilles sous la brise chaude du soir, tandis que les étoiles scintillaient et que les lunes jumelles traversaient à toute vitesse un ciel de velours.
Nous avons demandé à Gladstone et aux autorités de l'hégémonie de n'offrir aucune résistance et de ne maintenir aucun vaisseau de la force à l'intérieur du système,
déclara Sek Hardin.
Est-ce bien sage ? Demanda Duré.
Le Templier l'avait mis au courant un peu plus tôt du sort subi par Evansgate.
La flotte de la Force ne s'est pas encore suffisamment réorganisée pour offrir une résistance valable. C'est la seule chance pour notre planète d'être considérée comme non belligérante.
Le père Duré hocha la tête. Il se pencha en avant pour mieux voir la haute silhouette entourée des ombres de la plateforme. Leur seul éclairage, à part les étoiles et les lunes, consistait en quelques globes bioluminescents accrochés aux branches situées sous la plateforme.
Vous avez pourtant approuvé cette guerre. Vous avez aidé le culte Grichtek à la provoquer.
Pas la guerre durée. Mais la fraternité savait qu'elle devait prendre part au grand changement.
Qui consiste en quoi ?
Le grand changement, c'est l'acceptation par l'humanité de tenir sa place dans l'ordre universel et naturel des choses, au lieu de se comporter comme un cancer.
Un cancer ?
Il s'agit d'une ancienne maladie qui...
Je sais ce que c'est qu'un cancer.
Coupa Duré.
En quoi l'humanité ressemble-t-elle à un cancer ?
La voix douce, parfaitement modulée de Sek Hardin, laissa percer pour la première fois des signes d'agitation.
Nous nous sommes répandus dans la galaxie comme des cellules cancéreuses à l'intérieur d'un organisme vivant. Nous nous multiplions sans tenir compte des innombrables formes de vie qui doivent mourir ou nous laisser la place pour que nous puissions nous reproduire et tout envahir. Nous éliminons sans pitié toutes les formes de vie intelligentes qui pourraient rivaliser avec nous.
Par exemple,
les empates sénéchiens des Brons ou les centaures des marais de Garden. Toute l'écologie de Garden a été détruite du Ré pour que quelques milliers de colons humains puissent vivre là où des millions de créatures autochtones avaient prospéré avant eux.
Duré se toucha la joue de la phalange de son doigt plié.
C'est l'un des inconvénients de la terraformation, admit-il.
Nous n'avons pas terraformé Whirl,
répliqua vivement le Templier.
Pourtant, les formes de vie locales ont été pourchassées jusqu'à l'extinction totale.
Personne n'a jamais établi avec certitude que les Zeppelins étaient intelligents, fit Duré, conscient du peu de conviction qui transparaissait dans sa voix.
Ils chantaient. Ils communiquaient à travers des milliers de kilomètres d'atmosphère par des chants empreints d'amour et de mélancolie. Ils ont pourtant été exterminés tout comme les grandes baleines de l'ancienne Terre.
Duré noua ses doigts avant de répondre tranquillement.
« Des injustices ont été commises, je vous l'accorde. Mais il y a certainement de meilleures manières de redresser les torts que d'apporter son soutien à l'idéologie cruelle du culte Grichtek, et surtout d'approuver cette guerre. »
Le capuchon du Templier s'inclina plusieurs fois d'avant en arrière et d'arrière en avant.
Je ne suis pas de votre avis. S'il ne s'agissait que d'injustice, elle serait peut-être réparable. Mais la folie morbide qui a conduit à la destruction d'autres races et à la spoliation de planètes entières est le résultat d'une symbiose contre nature.
Une symbiose?
Entre l'humanité et le technocentre,
accusa Sek Hardin avec une violence rare pour un Templier.
Entre l'homme et ses intelligences mécaniques, qui parasite l'autre? Difficile à dire quand on appartient à l'une des parties. Mais c'est un péché, croyez-moi, Duré. Une alliance contre nature. Pis encore, un cul-de-sac évolutionnaire.
Le jésuite se leva et marcha jusqu'à la balustrade. Il laissa son regard errer sur la voûte noire des arbres qui s'étalait comme un plafond de nuages dans la nuit.
Il y a sûrement mieux à faire que de recourir au Gritch et à la guerre interstellaire,
murmura-t-il.
Le Gritch est un catalyseur. C'est le feu purificateur qui survient lorsque la forêt a été mutilée et que les coupes dévastatrices l'ont rendu malade. Les temps à venir seront durs, mais il en résultera un nouvel essor, une nouvelle vie et une nouvelle prolifération des espèces. Pas seulement dans des régions éloignées, mais au sein de l'humanité elle-même.
Les temps seront durs,
répéta rêveusement Duré.
Et votre fraternité est prête à voir mourir des milliards d'humains pour que s'accomplisse cette purification.
Le Templier serra les poings.
Cela ne se produira pas. Le Gritch est un avertissement. Nos frères extro veulent seulement prendre le contrôle d'Hyperion et du Gritch assez longtemps pour porter un coup fatal au technocentre. Ce sera une opération chirurgicale. La destruction d'un symbiote et la renaissance de l'humanité en tant que partenaire distinct dans le cycle de la vie.
Personne ne sait où réside le centre,
fit le père Duré en soupirant.
Comment les extros pourraient-ils lui porter un coup? Ils le feront,
déclara la voix authentique de l'arbre-monde. Duré crut remarquer qu'il y avait moins d'assurance que tout à l'heure dans la voix du Templier.
Et l'attaque du bosquet de Dieu fait partie du tableau, demanda-t-il. Ce fut le tour du Templier de se lever et de faire les 100 pas entre la table et la balustrade.
Ils n'attaqueront pas le bosquet de Dieu, affirma-t-il. C'est pour cela que je vous ai retenu ici, pour que vous puissiez ensuite aller faire votre rapport aux autorités de l'hégémonie.
Ils n'ont pas besoin de moi pour savoir si les extros attaquent ou non, fit le prêtre perplexe.
Je le sais, mais ils ne comprendront pas pourquoi notre monde a été épargné si vous ne leur apportez pas l'explication. Vous devez leur transmettre le message, leur expliquer la vérité.
Au diable, votre message! Je suis fatigué de servir d'estafette à tout le monde. Comment savez-vous toutes ces choses? Sur la venue du Gritch? Sur les raisons de cette guerre?
Il y a les prophéties, commença Sek Hardin.
Duré abattit son poing sur la balustrade. Comment expliquer à cet homme les manipulations d'une créature capable ou tout au moins inféodée à une force capable d'agir sur le temps lui-même?
Vous verrez, commença le Templier.
Comme pour ponctuer ces mots, une vaste rumeur s'éleva, sourde, comme si un million de malheureuses créatures cachées avaient poussé un soupir, puis un gémissement collectif.
Bon Dieu!
Fit Duré en se tournant vers l'ouest. Le soleil semblait se lever à l'endroit même où il avait disparu moins d'une heure plus tôt. Un vent chaud soufflait sur son visage et faisait bruire les feuilles. 4 champignons au chapeau creux s'élevèrent au-dessus de l'horizon à l'ouest, transformant la nuit en jour, tandis qu'ils se dilataient et s'effilochaient rapidement. Duré s'était instinctivement caché les yeux, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les explosions étaient si lointaines que, malgré leur luminosité presque aussi intense que celle du soleil local, elles ne risquaient pas de l'aveugler. Sek Hardin rejeta son capuchon en arrière. Le vent chaud ébouriffa ses longs cheveux à la couleur étrangement verdâtre. Duré contempla ses traits maigres et allongés, vaguement asiatiques, et s'aperçut qu'ils portaient la stupéfaction gravée en eux. La stupéfaction et l'incrédulité. Le capuchon lançait des appels comme et bruissait de micro-murmures excités.
Explosion sur Sierra et Hokkaido,
chuchota le Templier comme s'il s'adressait à lui-même.
Explosion nucléaire, provoquée par les vaisseaux en orbite.
Duré savait que Sierra était un continent interdit aux étrangers et situé à moins de 800 kilomètres de l'arbre-monde où il se trouvait. Il croyait se souvenir aussi que Hokkaido était l'île sacrée où poussaient les futurs vaisseaux-arbres et où ils étaient aménagés.
« Beaucoup de victimes ?» demanda-t-il.
Avant que Hardin pût répondre, cependant, le ciel fut balayé par une puissante lumière, tandis qu'une 20aine ou plus de lasers tactiques, de bombes à conjugaison de charges et de faisceaux de fusion formaient un bandeau d'un horizon à l'autre, éclairant comme des projecteurs la voûte feuillue de la forêt planétaire qui s'appelait jusqu'ici le bosquet de Dieu. Et partout où les faisceaux de fusion pénétraient, les flammes faisaient éruption. Duré chancela tandis qu'un rayon de 100 mètres de large trouait la forêt comme une tornade à moins d'un kilomètre de l'arbre-monde. La forêt ancienne explosa en une flambée soudaine qui créa dans la nuit un corridor de feu sur 10 kilomètres de long. L'appel d'air ainsi créé souffla en rugissant aux oreilles de Duré et de Sek Hardin. Un nouveau rayon frappa dans le sens nord-sud, non loin de l'arbre-monde, avant de disparaître à l'horizon. Un bandeau de flammes surgit de nouveau et une fumée noire s'éleva vers les étoiles traîtresses.
« Ils avaient promis !»
s'étrangla Sek Hardin.
« Nos frères extro avaient promis !»« Vous avez besoin d'aide !»
s'écria Duré.
« Demandez aux Reds de vous aider d'urgence !»
Hardin lui saisit le bras et l'entraîna vers le bord de la plateforme. Les étoiles étaient revenues à leur place. Sur une autre plateforme, en contrebas, une porte d'Istrans miroitait.
« Ce n'est que l'avant-garde de la flotte, extro !»
lui cria le Templier pour couvrir les bruits de la forêt en flammes.
« Mais la sphère de singularité risque d'être détruite d'une seconde à l'autre. Partez ! Je ne pars pas sans vous !»
répondit le jésuite. Il n'était pas certain d'avoir été entendu au milieu des terribles craquements de la forêt enflammée, envahie par la fumée et les tisons volants. Soudain, à quelques kilomètres à peine en direction de l'est, le cercle bleu parfait d'une explosion de plasma se dilata, implosa, puis se dilata encore en laissant des traces circulaires concentriques de l'onde de choc. Des arbres de 1000 mètres de haut se courbèrent et se brisèrent sous l'effet de la première déflagration. Leur côté exposé à l'est s'embrasa en une explosion qui fit voler les feuilles par millions, renforçant le mur presque solide de débris de toutes sortes qui se dirigeait à une allure folle vers l'arbre-monde. Derrière le cercle de flammes, une autre bombe au plasma explosa, puis une troisième. Duré et le Templier dégringolèrent plusieurs marches et furent projetés par le souffle sur la plateforme inférieure comme des feuilles mortes sur un trottoir. Le Templier s'agrippa à une rampe en bois de muir léchée par les flammes, saisit fermement le bras de Duré de l'autre main et avança, tête baissée, comme dans un cyclone, en direction du panneau d'Istrans miroitant. À moitié conscient d'être ainsi traîné, Duré lutta pour se dégager juste au moment où Secardine le poussait contre la porte. Il s'agrippa au cadre, trop faible pour faire un pas de plus, et regarda à travers la surface miroitante, où il aperçut un spectacle qu'il n'oublierait plus jamais. Un jour, il y avait de cela de nombreuses années, près de sa ville bien-aimée de Villefranche-sur-Saône, le jeune Paul Duré s'était trouvé au sommet d'une falaise, à l'abri des bras de son père, protégé, par surcroît, par un épais bunker dont la fente étroite permettait de contempler un tsunami de 40 mètres de haut qui se précipitait vers la côte où ils habitaient. Le tsunami qu'il avait actuellement sous les yeux, par contre, devait faire 3000 mètres de haut. Il était composé de flammes et ravageait à une vitesse qui semblait proche de celle de la lumière toute la voûte de la forêt qui entourait l'arbre-monde. Tout ce qu'il touchait était détruit sur le champ, et il se rapprochait de plus en plus, oblitérant le ciel de son rugissement de flammes infernales.
« Non !»
s'écria le père Paul Duré.
« Partez !»
fit la voix authentique de l'arbre-monde en poussant le jésuite vers la porte d'Istrans au moment même où la plateforme, le tronc de l'arbre-monde et la robe du Templier prenaient feu. La porte se referma avant que Duré fût entièrement passé. Elle lui sectionna le talon d'une chaussure et il sentit ses tympans se déchirer et ses vêtements roussir tandis qu'il tombait en arrière, que sa tête heurtait quelque chose de dur et qu'il était plongé dans des ténèbres absolues. Gladstone et les autres contemplaient dans un silence horrifié les images de la mort d'une planète transmise par les satellites civils au moyen des relais Mégatrans.
Nous ne pouvons plus attendre pour la faire sauter,
s'écria l'amiral Singh d'une voix qui couvrit les crépitements de la forêt agonisante. Mayna Gladstone avait l'impression d'entendre les hurlements des humains et des innombrables créatures arboricoles qui vivaient dans les forêts du bosquet de Dieu.
Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser approcher davantage,
insista Singh.
Nous n'avons déjà plus que nos dispositifs de télécommande pour déclencher l'explosion de la sphère.
Allez-y.
Fit Gladstone. Ses lèvres avaient bien remué, mais elle n'avait entendu sortir aucun son. Singh se tourna pour faire un signe de tête à un colonel de la force spatiale. Ce dernier effleura son panneau de commandement tactique. Les forêts en flammes disparurent aussitôt, les hologéants devinrent totalement opaques, mais les hurlements étaient toujours présents. Mayna Gladstone se rendit compte que c'était le bruit du sang qui battait à ses oreilles. Elle se tourna vers Morpurgo pour demander «
Dans combien de temps ?»
Elle s'éclaircit la voix et recommença.
« Général, dans combien de temps Mare Infinitus sera-t-il attaqué ?»«
3 heures et 52 minutes, H-présidente. »
Elle se tourna vers l'ex-capitaine de frégate William Ajuntali.
« Votre force d'intervention est prête, amiral ?»«
Elle est prête, H-présidente. »
Sous son bronzage, Lee était blême lui aussi.
Combien de vaisseaux prendront part à l'offensive ?
74, H-présidente.
L'affrontement aura lieu loin de Mare Infinitus ?
Dans le nuage d'Oort, H-Présidente.
Parfait. Bonne chasse, amiral.
Le jeune officier prit cela comme une invitation à saluer et à se retirer. L'amiral Singh se pencha pour murmurer quelque chose au général Van Zeit. Sedeptra Akasi chuchota à l'oreille de Gladstone.
La sécurité nous informe qu'un homme vient de se distransporter dans le Terminex à accès réservé au QG avec un code prioritaire périmé. Il est blessé. On l'a conduit dans la section hospitalière de l'aile orientale.
Leg ? Demanda Gladstone.
Severn ? Ni l'un ni l'autre, H-Présidente. Le prêtre de Passem, Paul Duré.
Gladstone hocha la tête.
Je le verrai après mon entretien avec Albedo.
Elle se tourna vers les autres pour annoncer
« Si personne n'a rien à ajouter à ce que nous venons de voir, je vous propose d'ajourner cette séance durant 30 minutes. Nous nous occuperons ensuite de la défense d'Asquith et d'Ixion. »
Tout le monde se leva lorsque la présidente et ses collaborateurs immédiats sortirent par la porte d'Istrance qui communiquait en permanence avec la maison du gouvernement et franchirent une porte qui s'ouvrait dans le mur opposé du corridor, laissant les murmures des controverses et de la stupéfaction générale reprendre de plus belle dans la salle du conseil de guerre. Mayna Gladstone se laissa aller en arrière dans son fauteuil de cuir et ferma les yeux durant exactement 5 secondes. Lorsqu'elle les rouvrit, ses collaborateurs étaient toujours là, certains anxieux, d'autres excités, tous pendus à ses lèvres, attendant ses ordres.
« Allez faire un tour »,
leur dit-elle d'une voix douce.
« Prenez quelques minutes de repos. Mettez les pieds sur la table pendant 10 minutes.
Il n'y aura plus de répit ensuite durant 24 ou 48 heures. »
Le groupe obéit en file indienne. Certains semblaient au bord de la protestation, d'autres au bord de l'épuisement.
« C'est Deptra !»
appela-t-elle. La jeune femme revint vers elle.
Affectez 2 hommes de ma garde personnelle à la surveillance du prêtre qui vient d'arriver, le père Duré. »
Akasi hocha la tête et écrivit quelque chose sur son mémofax.
Où en est la situation du point de vue politique ?
Demanda Gladstone en se frottant les yeux.
La Pangermie est dans le chaos le plus complet. Il y a des factions qui se forment, mais il n'en est pas encore sorti une opposition efficace. Au Sénat, c'est une autre histoire.
Feldstein ?
Demanda Gladstone. Le sénateur irascible du monde de Barnard savait qu'il ne restait que 42 heures avant l'attaque de sa planète par les extros.
Feldstein, mais aussi Kaki Numa, Peters, Saben Storafem, Richaud, même Sudet Shire demande votre démission. Et son mari ?
Gladstone considérait le sénateur Kolchev comme la personne la plus influente du Sénat.
Aucune prise de position de sa part pour le moment, ni officieuse ni officielle.
La présidente se tapota la lèvre inférieure de l'ongle du pouce.
Combien de temps croyez-vous qu'il nous reste avant qu'une motion de confiance ne nous fasse tomber, Sedeptra ?
Akasi, l'une des conseillères les plus perspicaces en matière de politique avec qui Gladstone eût jamais travaillé, soutint sereinement le regard de la présidente.
72 heures au plus, madame. Les voix sont déjà acquises. La foule ne s'avise qu'au dernier moment qu'elle s'apprête à commettre un lynchage. Il faut bien qu'on fasse payer quelqu'un pour tout ce qui est en train de se passer. 72 heures,
murmura Gladstone en hochant rêveusement la tête.
Bien plus que ce dont nous avions besoin. Ce sera tout, Sedeptra,
ajouta-t-elle avec un sourire.
Prenez un peu de repos, vous aussi.
La jeune femme hocha la tête, mais son expression indiquait très clairement ce qu'elle pensait de l'utilité pratique de cette suggestion. Lorsqu'elle referma la porte en sortant, un silence absolu régnait dans le bureau. Gladstone demeura quelques instants, la tête penchée en avant, le poing contre la joue. Puis elle s'adressa au mur.
Introduisez le conseil Albedo, je vous prie.
20 secondes plus tard, l'air, de l'autre côté de la large table de travail de Gladstone, se mit à miroiter et à prendre une consistance solide. Le représentant du technocentre avait l'air plus sémillant que jamais, avec ses cheveux argentés brillant à la lumière, son bronzage récent et son visage ouvert, respirant la sincérité. « H-présidente », commença la projection holo. L'Assemblée consultative et les prévisionnistes du centre sont heureux de continuer à vous apporter leur concours en ces temps de grande.
Où se trouve le centre, Albedo ?
Interrompit Gladstone. Le sourire du conseiller ne vacilla pas.
Excusez-moi, H-présidente, mais je n'ai pas bien entendu votre question. Le technocentre, Albedo, où se trouve-t-il ?
Le visage rayonnant du conseiller refléta une légère perplexité, mais sans aucune animosité. La seule émotion visible était un désir contrarié de se montrer serviable.
Vous savez certainement, H-présidente, que la politique du technocentre depuis la sécession a toujours été de tenir secret l'emplacement des éléments physiques qui constituent le technocentre. Autrement dit, le centre n'est nulle part, puisque vous n'existez que dans les réalités consensuelles de l'infoplan et de l'infosphère,
acheva Gladstone d'un ton sec.
Je sais, j'ai entendu ces conneries toute ma vie, Albedo. Mon père aussi, et mon grand-père avant lui. Mais je vous pose de nouveau la question. Où se trouve le technocentre ?
Le conseiller secoua la tête d'un air sincèrement désolé, comme un adulte à qui son enfant demande pour la millième fois de lui expliquer pourquoi le ciel est bleu.
H-présidente, il est tout simplement impossible de répondre à cette question d'une manière qui prenne un sens avec des coordonnées humaines à trois dimensions. On pourrait dire que nous existons, je parle du technocentre, à la fois dans le RETS et au-delà du RETS. Nous flottons dans la réalité de l'infoplan que vous appelez infosphère. Quant à nos constituants physiques, la partie que vos ancêtres auraient appelée matérielle, nous estimons indispensable de garder le secret sur eux,
acheva Gladstone en croisant les bras.
Vous rendez-vous compte, conseiller Albedo, qu'il y a des gens dans l'hégémonie, des millions de gens, qui vont commencer à croire très fermement que le centre, et votre assemblée consultative en particulier, s'est rendu coupable de trahison envers l'humanité.
Albedo fit un geste vague.
C'est regrettable, H-présidente. Très regrettable, mais compréhensible. Vos prévisionnistes étaient censés nous fournir des avis d'une fiabilité quasi totale. Pourtant, à aucun moment vous ne nous avez mis en garde contre l'éventualité de la destruction de nos planètes par cette flotte extro.
La tristesse qui se lisait sur les traits harmonieux de la projection était touchante, presque convaincante.
H-présidente, en toute justice, je dois vous rappeler que l'Assemblée consultative vous avait prévenu que l'annexion d'Hyperion au RETS introduisait une variable aléatoire que le technocentre lui-même était incapable de prendre en compte.
« Quel rapport avec Hyperion ?»
coupa Gladstone en élevant la voix.
« Il s'agit du bosquet de Dieu en flammes, d'Heaven's Gate réduit à l'état d'un monceau de scories, de Mare Infinitus qui attend le coup de grâce. Quelle est l'utilité de votre assemblée consultative si elle n'est même pas capable de prévoir des destructions de cette importance ?»
Nous avons prédit la guerre avec les extro-H, présidente, ainsi que le danger qu'il y avait à vouloir défendre Hyperion. Vous devez me croire lorsque je vous affirme que l'introduction de cette planète dans une quelconque équation de prédiction abaisse l'indice de probabilité à des niveaux tout à fait...
Très bien,
soupira Gladstone.
Je veux parler à l'une des... puissances, je crois que c'est le mot que vous employez. À l'une des IA qui vous commande. Quelqu'un de haut placé, Albedo. Je veux lui demander pourquoi le technocentre a enlevé mon portraitiste Severn et mon adjoint Leg Hunt.
La projection prit un air choqué.
Je vous assure, H-présidente, sur l'honneur de nos quatre siècles d'alliance, que le technocentre n'a rien à voir avec la regrettable disparition de vos...
Gladstone se leva.
C'est précisément pour cela que je veux parler à l'une de vos puissances, Albedo.
Le moment est venu de nous expliquer sans détour si nous voulons que l'une au moins de nos espèces survive. Ce sera tout. »
Elle fit mine de reporter son attention sur les pelures mémofax posées sur son bureau. Le conseiller Albedo se leva, s'inclina légèrement, puis disparut dans un flou miroitant. Gladstone fit apparaître sa porte-distance personnelle. Elle murmura le code de la section hospitalière de la maison du gouvernement et s'apprêta à passer de l'autre côté. Mais au moment de toucher la surface opaque du rectangle d'énergie, elle se ravisa. Pour la première fois de sa vie, l'angoisse l'étreignit à l'idée de franchir une interface distrance. Si le technocentre la faisait disparaître, elle aussi. Elle comprenait soudain le terrible pouvoir de vie et de mort que le centre exerçait sur tous les citoyens du RETS qui se servaient du réseau distrance, c'est-à-dire sur la totalité des gens qui occupaient une position tant soit peu importante. L'Aigle et le Cybride Severn n'avaient pas nécessairement été distransportés ailleurs. Seule l'habitude de considérer le système distrans comme un moyen de transport d'une sécurité absolue créait la conviction, au niveau subconscient, qu'ils étaient allés quelque part. Mais ils avaient aussi bien pu être transférés dans le néant, dans des atomes éparpillés occupant l'espace expansé d'une singularité. Les terminaux distrans ne servaient pas à la téléportation des personnes et des choses. Un tel concept était puéril. Mais n'était-il pas encore plus ridicule de faire confiance à un système qui perçait des trous dans le tissu de l'espace-temps pour faire passer les gens par des trappes analogues à des trous noirs? N'était-il pas insensé pour elle, en ce moment même, de faire confiance au technocentre pour la conduire dans la maison du gouvernement? Elle songea à la salle du conseil de guerre, aux trois salles immenses reliées par des panneaux distrans à vision directe activés en permanence. Les trois salles étaient séparées, en réalité, par au moins 1000 années-lumière, des dizaines d'années de voyage en temps réel, même sous propulsion Hawking. Chaque fois que Morpurgo ou Singh ou quelqu'un d'autre se déplaçait pour aller d'une carte murale à la table traçante, il franchissait des gouffres d'espace et de temps. Tout ce que le technocentre avait à faire pour détruire l'hégémonie et tous ceux qui s'y trouvaient était d'intervenir sur le réseau distrans pour qu'une légère erreur d'acheminement se produise. « Au diable la prudence !» se dit Mayna Gladstone, et elle passa à travers l'interface pour se rendre au chevet de Durée.